France Culture. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Nietzsche et l'Italie, c'est notre série cette semaine. Une série à écouter toute l'année, mais peut-être particulièrement à quelques jours du printemps ou en plein été. Aujourd'hui, Turin, dernier séjour italien de Nietzsche, flamboyance et effondrement. C'est au nord de l'Italie que se retrouve Nietzsche en avril 1888, puis de septembre 1888 à janvier 1889. C'est fini, Sorrente. C'est fini, Messine. Le port de Gênes, ouvert sur le monde, est aussi derrière lui. Nietzsche ne va pas bien du tout, et il le sent. Il cherche cette fois une Italie proche, mais somptueuse, une ville à couper le souffle, Turin. Turin pour l'ultime geste philosophique de Nietzsche qui consiste en une véritable inversion des valeurs. Un geste qui se veut plus fort encore, plus radical que tout ce qu'il a jamais dit. Pour Nietzsche, l'Occident, depuis qu'il a perdu sa source grecque, s'est terni dans la culpabilité chrétienne, dans la morale comme haine de la vie, dans des désirs morbides de se venger du monde en fantasmant des arrière-mondes. Nous ne savons plus dire oui au divers, au hasard, au tragique lui-même. En 1887, Nietzsche a publié sa Généalogie de la morale, où il a dépeint le supposé bien moral en morbidité à peine masquée. Il veut aller toujours plus loin. En 1888, à Turin, il écrit coup sur coup l'Antéchrist, le crépuscule des idoles, Ecce Homo, le cas Wagner, avant de s'effondrer, paralysé. Et c'est terrible de se dire qu'il restera en vie encore 10 ans, peut-être assez lucide pour voir sa sœur détestée s'affairer autour de son œuvre avec des intentions qui la trahissent largement. Turin donc, flamboyance, puis effondrement. Et pour parler de ce dernier Nietzsche, j'ai le plaisir de recevoir Patrick Wötling. Bonjour.
Bonjour.
Professeur de philosophie à l'université de Reims, vous êtes un grand spécialiste de Nietzsche, dont vous avez traduit beaucoup d'œuvres et que vous avez commenté dans de nombreux livres listés avec soin sur le site de notre mission. Et bienvenue aussi à Céline Denat.
Bonjour,
vous avez travaillé avec Patrick Wötling, c'est à l'université de Reims, vous aussi, que vous enseignez comme maîtresse de conférence. Aujourd'hui, vous êtes à votre tour une des figures françaises du commentaire de Nietzsche. Notre site apporte, là encore, des précisions sur vos travaux. Commençons frontalement. L'inversion des valeurs qui occupe la terrible année 1888 de Nietzsche, de quoi s'agit-il exactement? Je vous propose d'écouter ces extraits des alinéas 3 et 4 de son ouvrage L'Antéchrist.
Le problème que je pose n'est pas de savoir ce qui doit remplacer l'humanité dans la suite des êtres. L'homme est un terme. Mais quel type d'homme on doit dresser, on doit vouloir, comme type d'une valeur plus élevée, plus digne de vivre, plus sûre d'un avenir? Ce type d'une valeur plus élevée s'est déjà assez souvent présenté, mais comme un heureux hasard, comme une exception, jamais comme résultat d'une volonté. Au contraire, c'est lui qu'on a justement le plus redouté. Il était jusqu'ici presque la chose redoutable en soi. Et cette crainte a fait qu'on a voulu, dresser, obtenu, le type contraire, l'animal domestique, l'animal de troupeau, l'homme animal malade, le chrétien. L'humanité ne représente pas du tout une évolution vers le mieux, le plus fort, le plus élevé au sens où on le croit aujourd'hui. Le progrès n'est qu'une idée moderne, c'est-à-dire une idée fausse. L'Européen d'aujourd'hui reste en valeur très au-dessous de l'Européen de la Renaissance. L'évolution n'implique absolument pas, comme conséquence en quelque manière inéluctable, l'élévation, l'accroissement, l'augmentation de la force.
Céline Denat, Nietzsche, dans ces extraits de l'Antéchrist, dépeint l'homme comme un animal domestique, un animal de troupeau. Il le dit animal malade, animal chrétien. Pourriez-vous expliquer toutes ces expressions, s'il vous plaît?
Alors, en effet, c'est ce que Nietzsche dénonce dès avant, bien sûr, 1888, à savoir l'idée que le type de valeurs avec lesquelles nous vivons en un sens depuis Platon, puisque, on le sait, le platonisme aux yeux de Nietzsche préfigure en un sens le christianisme. Les valeurs qui sont les nôtres, donc, qui conditionnent notre manière de penser, notre manière de vivre, nos manières d'agir, favorisent en fait ce que Nietzsche désigne comme la décadence de l'humanité, c'est-à-dire son affaiblissement, le manque et la décroissance même de la force, un état au moins métaphoriquement pensé de maladie. On peut donner quelques exemples qui permettent d'expliquer cela. Par exemple, la tendance à penser de façon dualiste l'homme comme étant avant tout une âme, essentiellement une âme associée à un corps, entraîne un état de maladie de l'âme, parce que le souci de soi réduit à un simple souci de l'âme ne peut à terme que rendre l'homme malade. C'est un exemple parmi d'autres.
C'est pour cela qu'il insiste sur le mot animal ?
Alors, ce pourquoi il insiste sur le mot animal, c'est tout simplement pour une part, parce qu'à ses yeux, l'homme est un animal parmi d'autres, et que Nietzsche s'oppose à l'idée assez classique en philosophie qu'il y aurait une différence de nature, une différence spécifique entre l'homme et les autres animaux, différence spécifique qui tiendrait, selon la tradition, au fait qu'il est naturellement doué de raison. En fait, aux yeux de Nietzsche, la raison n'est que le résultat d'un certain nombre de tendances, de besoins, de pulsions, qui, sur une longue histoire, ont fini par produire ce que l'on nomme capacité de raisonner, de démontrer, etc. Mais somme toute, ça n'est qu'un produit de la vie et des pulsions vitales parmi d'autres. Donc la différence entre hommes et animaux, elle n'est que, disons, de degré et non pas de nature.
Qu'à force de nous penser différents, avec une raison, une âme séparée, eh bien, au fond, nous ne sommes que des animaux malades.
Voilà, c'est ça. Les deux idées s'associent, en fait. Oui, bien sûr.
Patrick Wöttling, la raison chez Nietzsche, comme à peu près tout d'ailleurs, l'art, la créativité, plein de choses, n'est pas uniment mauvaise ni uniment bonne. Il y a toujours ça dépend des moments. Il peut y avoir des aspects sains, santé, hein. parce que parfois il joue avec ces deux mots, et des aspects morbides. Donc, par exemple, la raison, dit-il dans l'Antéchrist, quand elle s'érige contre la religion superstitieuse, elle est belle, elle est vivante, elle est pleine de vie. Alors que la raison qui fixe des interdits moraux, puisque c'est la raison, selon Emmanuel Kant, le grand philosophe allemand, qui est la source de notre moralité, elle ne fait que nous mettre des interdits comme une araignée, dit-il dans la généalogie morale, je crois que j'ai toujours lu ce texte dans votre traduction, comme une araignée qui tisse sa toile et qui enferme l'homme. Donc la raison, c'est une affaire... J'ai presque envie de dire dialectique, c'est pas simple, c'est pas uniment une maladie chez Nietzsche, Patrick Wöttling.
Non, bien sûr. De toute façon, ce que vous dites là, qui est très juste, peut s'appliquer absolument à toutes les notions Nietzsche. Nietzsche est un penseur de la variation, des degrés, de la typologie. Les choses ne sont jamais uniformes, blanches ou noires, positives ou négatives. Il s'agit toujours de penser des degrés, des utilisations, des appropriations, etc. Ce qui reste vrai, c'est que dans tous les cas, la raison, en tout cas, et ça c'est une des grandes erreurs des philosophes, n'est pas une faculté autonome. La raison, ça n'est jamais que le nom que l'on donne à ça, comme Céline Denat vient de le rappeler, le nom que l'on donne à certaines tendances qui sont dans leur fond, ce que Nietzsche appelle des pulsions, des affects, c'est-à-dire des processus infraconscients, qui dans certaines conditions, certaines phases d'histoire, en viennent à produire un résultat qui est un résultat conscient. Bon, et on ne voit pas les sources infraconscientes, c'est infraconscient, on ne les perçoit évidemment pas. En revanche, on perçoit le résultat, donc on peut s'imaginer, si on n'est pas suffisamment prudent, que la raison, enfin qu'il y a quelque chose comme une pensée consciente qui se maîtrise elle-même, c'est ça qu'on appelle la raison, qui est capable d'enchaîner les idées, d'analyser le réel de manière objective, etc. Bon, ça, c'est une illusion. Ensuite, l'utilisation qu'on fait de cette... Et toutes les illusions, il faut le préciser, ne sont pas mauvaises. Pour Nietzsche, la vie veut l'illusion. L'illusion est une des conditions de la vie, donc on n'a pas nécessairement critiqué quand on dit que quelque chose est illusoire. Mais effectivement, il y a des illusions qui sont nocives. Penser qu'il y a une raison en soi et pour soi, et que cette raison est donatrice de loi morale, vous preniez le cas de Kant, et que agir pour l'homme, ça doit se faire en stricte conformité avec les exigences ou les promulgations rationnelles. ça, Céline Denat le souligne également, c'est quelque chose qui non seulement est faux, mais qui est vraiment nocif, qui aura des conséquences dramatiques, puisque ça pousse en effet à, non seulement à négliger, mais à mépriser, à combattre les exigences de la vie corporelle. Mais inversement, effectivement, Nietzsche n'est pas un irrationaliste. La raison peut parfaitement, toute illusoire qu'elle soit finalement, les tendances qui se manifestent dans ce qu'on appelle la raison, ça peut être utilisé de manière tout à fait positive, efficace, à commencer par l'utilisation dans un cadre d'analyse pour débrouiller. C'est une partie du travail que les philosophes ont fait. Nietzsche les critique de manière radicale, ils se sont trompés d'objet, de méthodologie, mais malgré tout, il y a des choses qui sont tout à fait dignes d'être conservées, en particulier le souci de clarification qui est l'un des objectifs de la mise en œuvre de la raison. Voilà, on pourrait continuer longtemps, mais je m'arrête pour pas être trop long.
Je vous relance sur le point qui était notre point d'entrée là ce matin. L'inversion des valeurs, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus de valeur en soi, peut-être à part la vitalité ? Et c'est à nous de les inventer. Au fond, l'inversion des valeurs, c'est un appel à inventer nos valeurs. Ou est-ce que c'est autre chose, avec malgré tout des chemins fermes, déterminés par Nietzsche à la fin de sa vie ? Parce que si ce n'est que inventer valeurs, c'est considérable. Mais est-ce très différent de ce qu'il a dit avant ? On est en 1888, il a écrit Ainsi parlait Zarathoustra, il a écrit Le Gai Savoir, il a écrit Humain trop humain. Est-ce qu'on a affaire à une rupture en 1888 ou pas vraiment ?
Il faut partir d'un petit peu plus loin. On a affaire à un tournant. Et c'est une chose qui est très peu connue de manière générale parce qu'elle est difficile à voir et à penser en raison de l'interruption brutale de 89 qui vient brouiller complètement la compréhension des plans qui étaient ceux de Nietzsche. À partir de 88, après la généalogie, avec la généalogie de la morale, vous évoquiez, Nietzsche considère qu'il est arrivé au terme d'une phase de travail. Mmh. Et il découvre surtout, ou il prend conscience du fait qu'il est indispensable de lancer une nouvelle tranche. C'est ça qui va concerner ce qu'il appelle renversement des valeurs. Maintenant, pour ce qui était un travail tout à fait différent de ce qu'il a fait dans la généalogie de la morale, dans Part de la bien et mal, il faut remonter un tout petit peu, même en allant très vite, un tout petit peu en deçà, pour comprendre la logique que suit la pensée nietzschéenne. Ce que Nietzsche découvre, c'est d'abord, et ça depuis le début de son entrée sur la scène philosophique, que la manière dont les philosophes ont procédé jusqu'à présent n'était pas satisfaisante. Ils n'ont pas compris eux-mêmes exactement quel était l'objectif véritable de la philosophie. On a pensé que le philosophe était une espèce de savant qui devait chercher des vérités. Nietzsche va se rendre compte en analysant les déficiences qui ont été liées, c'est-à-dire en repérant des préjugés qui ont été liés à cette manière de procéder, préjugés donc qui invalident la démarche des philosophes, se rendre compte que ce qui est le plus profond, le plus fondamental, c'est pas la vérité, ce sont les valeurs. Et deuxième point qu'il faut toujours garder en tête, sans ça on ne comprend pas bien la logique qu'il suit, il va surtout démontrer que les valeurs, ce ne sont pas des idées, ce ne sont pas des réalités intellectuelles, ce sont des conditions de vie. Elles déterminent une manière de penser, mais là encore, il ne faut pas couper ces manières de penser de leur source profonde. Donc, des valeurs ou des évaluations, ce sont avant tout les manières de vivre, et les manières de penser découlent de tout cela. Et troisième chose, Nietzsche se rend compte que ces valeurs, vivre, c'est poser des valeurs, c'est suivre des valeurs. Simplement, on peut prendre n'importe quoi. Comme d'ailleurs, l'histoire humaine, c'est l'histoire de tentatives qui ont été faites pour vivre avec des impératifs, des préférences, des priorités qui ont extrêmement varié, qui ont varié considérablement. Et vraiment, l'homme a essayé de vivre avec tout et n'importe quoi. Nietzsche donne des exemples empruntés notamment à l'ethnographie qui sont très parlants. Troisième point, le point important, c'est que comme les valeurs ne sont pas des idées, elles produisent un effet à long terme, un effet transformateur sur l'homme. Et c'est là que la question du rapport à la vie intervient. Il y a des valeurs qui rendent malade, il y a des valeurs qui intensifient la santé, le problème est donc là. Donc, cette phase de redéfinition du statut et du rôle du philosophe, elle est déjà accomplie. Elle a été en particulier formalisée très clairement dans Part de la bien et mal. Et la généalogie de la morale qui est un appendice de Part de la bien et mal. Mais ce que Nietzsche voit surtout, c'est que la réfutation théorique, ça ne suffit pas à modifier les valeurs. Et or là, l'Europe est en danger, à ses yeux, gravissime, danger quasiment vital, dirait-on aujourd'hui, parce que ces valeurs l'entraînent vers une logique de mort, une préférence pour la mort. Donc, le renversement des valeurs, c'est la nécessité de travailler pratiquement Et la grande différence, c'est que les textes de 88, je m'arrête là pour ne pas être trop long encore une fois, les textes de 88 doivent se lire dans cette logique-là, tout particulièrement l'Antéchrist. Il ne s'agit plus simplement de réfuter théoriquement, il s'agit de lancer pratiquement un contre-mouvement de modification des valeurs. Nietzsche pense toujours, le philosophe, sur le modèle du médecin. C'est un médecin qui, une fois le diagnostic accompli, doit lancer une thérapie. On peut comprendre les choses comme ça. La thérapie, ou le début, puisque Nietzsche dit toujours, c'est un mouvement, les mouvements axiologiques sont des mouvements très lents qui demandent des siècles, il ne va pas accomplir ça tout seul, mais il peut au moins essayer de lancer ce mouvement. En 88, c'est ça qui se passe, c'est ça le grand renversement. Donc ce n'est pas une contradiction, c'est un prolongement relativement logique dont Nietzsche prend conscience à ce moment-là, comme étant l'urgence et le travail indispensable, primordial du philosophe.
Céline Denat, comment vous regardez le tournant de 1888? Évidemment, on va venir au contexte de l'écriture de ces textes fondamentaux de 1888, Turin, un moment de, on pourrait dire peut-être d'excitation. Nietzsche sent que sa santé, ça va pas du tout, qu'il n'a peut-être que quelques mois. Il y a quelque chose de bouleversant dans cette ville. Nous allons y venir, mais je voudrais d'abord bien planter le décor. Alors, je fais l'inverse, si vous voulez, la philosophie pour le décor, et nous arriverons au biographique, alors qu'on pourrait faire, bien entendu, puisque nous parlons d'inversion, dans un sens contraire. Mais sur le plan philosophique, vous, comment vous voyez ce moment?
Alors, pour présenter les choses de façon synthétique, il faut rappeler qu'on pourrait dire qu'il y a dans la philosophie Nietzsche deux versants qui s'articulent l'un à l'autre. Un versant qui est, on va dire, interrogatif, critique, plus précisément généalogique, c'est-à-dire on interroge la valeur des valeurs, on montre quelle est l'insuffisance de certaines d'entre elles, et en l'occurrence de celles avec lesquelles nous vivons depuis, disons, 2000 ans. Et puis il y a, à partir de ça, un versant censé être créateur, ce qu'incarne la figure du philosophe législateur, hein, qui est cher à Nietzsche, c'est-à-dire que, ayant comparé, hiérarchisé un certain nombre de valeurs distinctes, on va pouvoir commencer de déterminer quel type de valeur est le plus favorable à l'avenir de l'humanité. Et donc, en 88, on pourrait dire que Nietzsche cherche à se mettre au travail, en quelque sorte, concernant ce second versant, le versant qui concerne la création et l'imposition de nouvelles valeurs. Vous parlez de création de valeurs, c'est à mon avis bien de ça qu'il est question ici. Sachant qu'on peut ajouter un point important, Nietzsche considère qu'on ne peut pas simplement se débarrasser par le biais d'une critique intellectuelle des valeurs qui ont dominé jusqu'ici. Le seul moyen de s'en débarrasser, entre guillemets, c'est une formule un peu trop brutale.
Enfin, pour Nietzsche, rien n'est trop brutal,
en fait,
franchement.
Je dirais que c'est trop brutal. Oui. Le seul moyen pour lui de détruire, en fait, c'est de créer quelque chose de nouveau qui sera susceptible de se substituer à ce qui précède, à ce qui dominait jusqu'ici. En fait, hein, on ne peut détruire qu'en étant créateur, dit un texte du Gai Savoir. Et donc, ce que Nietzsche cherche à faire ici, c'est à lancer ce que l'Antéchrist désigne comme un travail de combat à l'égard des valeurs dominantes. Un combat qui ne consiste pas simplement dans une critique intellectuelle ou rationnelle de ce qui précède, mais qui consiste, au moins dans une large mesure, dans la proposition de types de valeurs distinctes. Alors, Nietzsche ne propose pas de programme déterminé, il ne nous donne pas de tableau des valeurs nouvelles.
Mais s'il n'était pas tombé malade, eu cette crise terrible d'effondrement, de paralysie, probablement syphilitique, hein, c'est l'évolution de sa syphilis, même s'il y a beaucoup d'hypothèses sur les maladies de Nietzsche, il va finir 10 ans, il ne pourra plus marcher, plus parler. Notre question, c'est est-ce qu'il peut encore penser et voir comment notamment sa sœur est en train de s'occuper très mal de son œuvre. Mais est-ce que vous pensez, vous, que s'il n'avait pas connu ça, il était dans un mouvement qui l'aurait conduit presque à une deuxième œuvre ?
Alors, moi, j'estime que c'est une question insoluble, sauf à faire des hypothèses semi-gratuites et arbitraires. Qu'aurait fait Nietzsche si son état de santé était resté favorable pendant encore 10 ou 20 années? Pour ma part, je ne peux que reconnaître mon ignorance en la matière, en fait, parce que, sauf à faire des prévisions toujours discutables, on devine qu'il avait le projet, effectivement, de poursuivre son œuvre dans son versant positif, mais de fait, nous ne voyons rien de plus que l'interruption brutale de ce versant de son œuvre philosophique.
Alors, je vous propose qu'on écoute un deuxième extrait. Cette fois-ci, de Ecce Homo, écrit également en 1888, dans la partie qui s'appelle « Pourquoi je suis un destin ?». Tout à l'heure, nous évoquerons le sens de ce type d'expression chez Nietzsche, la manière dont il se met finalement en scène. Pour enfoncer le clou sur morbidité, maladie dont il faut sortir, cet extrait donc est assez éloquent. Écoutez.
La mise à découvert de la morale chrétienne est un événement qui n'a pas son pareil, une véritable catastrophe. Qui fait là-dessus la lumière est une force majeure, un destin. Il brise l'histoire de l'humanité en deux morceaux. On vit avant lui, on vit après lui. L'éclair de la vérité a justement frappé ce qui était placé le plus haut. Qui comprend ce qui a été là anéanti peut regarder s'il lui reste rien dans les mains. Tout ce qui jusqu'à présent s'appelait vérité est reconnu comme la forme la plus nuisible, la plus perfide, la plus souterraine de mensonge. Le prétexte sacré d'améliorer l'humanité reconnu comme la ruse pour pomper le sang de la vie, l'anémier, la morale comme vampirisme. Qui met à découvert la morale a du même coup mis à découvert la non-valeur de toutes les valeurs auxquelles on croit ou on a cru. L'idée de Dieu inventée pour servir d'antithèse à la vie, en elle, tout ce qu'il y a de nuisible, de vénéneux, de calomniateur, toute l'hostilité mortelle contre la vie synthétisée en une épouvantable unité. L'idée d'au-delà, de vrai monde, inventée pour dévaluer l'unique monde qui existe, pour ne réserver à notre réalité terrestre plus aucun but, aucune raison, aucune tâche de reste.
J'ai une question, parce que parfois on dit des choses sur ce point que je ne suis pas sûre de comprendre. Le mot « vérité » est employé plusieurs fois, Céline Denat, dans ce texte. Il y a des éclairs de vérité qui sont justes, qui frappent justement, semble-t-il dire. Et puis après, il dit que ce qu'on a appelé vérité, en fait, est le plus souvent nuisible. Le concept de vérité, qu'est-ce que c'est chez Nietzsche? Et est-ce que c'est finalement positif si on l'entend dans son acception à lui?
Alors, il faut rappeler que le concept de vérité chez Nietzsche fait l'objet d'une critique radicale qu'on voit notamment au début de Par delà bien et mal, pour ne citer qu'un exemple. Nietzsche considère que l'idée de vérité telle qu'elle est classiquement pensée, c'est-à-dire l'idée d'une possible vérité absolue qu'on pourrait connaître, c'est, vous dit-il parfois, une contradiction dans les termes. Là où nous accédons à ce que nous appelons vérité, bah cet accès, il est conditionné par ce que nous sommes et nos besoins, dit souvent Nietzsche. Donc, le concept de vérité tel qu'il est souvent admis par la philosophie, Nietzsche le rejette radicalement. Maintenant, il se passe chez Nietzsche ce qui se passe avec beaucoup de termes de la philosophie classique. On évoquait ça pour la raison tout à l'heure, c'est un peu la même chose. Nietzsche critique la notion, ce qui ne l'empêche pas parfois de reprendre le terme à son compte. Alors, on voit ici qu'il est, dans certains passages, mis entre guillemets, hein, en fait, vérité, ce qu'on appelle vérité. C'est une manière pour Nietzsche de mettre à distance la notion. Et dans le même temps, de manière polémique, ce qu'il dit dans le passage qui vient d'être lu, c'est on découvre que ce qui était tenu jusqu'ici pour vérité, oui, ne l'est sans doute pas, et tel est, entre guillemets, hein, notre nouvelle vérité, c'est-à-dire la critique, en quelque sorte, des valeurs actuelles amène à renoncer à l'idée qu'elles auraient prétendument une valeur absolue, etc. Mais il y a un usage ici qui est polémique, en fait, de la notion de vérité à laquelle Nietzsche ne croit pas en tant que tel.
Il n'y croit pas, mais c'est comme s'il en parlait davantage. Et donc là, je voudrais me risquer à une hypothèse qui pourrait faire un lien avec l'environnement de Turin. J'ai l'impression, Patrick Voetling, que plus il avance, Nietzsche, plus il réfute des choses qui l'ont attiré, en particulier le romantisme, comme remise en question du classicisme. Et évidemment, contre Wagner, ça va être l'apothéose de ce mouvement. Mais c'est comme s'il y avait une redécouverte du classicisme chez Nietzsche, des valeurs apolliniennes et pas seulement dionysiaques. Et justement, Turin, c'est là que je voulais en venir, enfin, faire ce lien. Turin est une ville qu'il décrit lui-même comme empreinte de classicisme. Je cite l'une de ses... c'était déjà, je crois, dans le Gai Savoir, enfin, il le dit plusieurs fois, qu'il adorait s'y promener. C'est une ville, selon mon cœur, la seule même, calme, presque solennelle, pays empreint de classicisme pour le pied et l'œil, grâce à un superbe pavement et à une palette de jaune et de rouge brun en laquelle tout s'unifie. Une touche de bon XVIIIe siècle, des palais qui parlent à nos sens, pas des châteaux de la Renaissance. Je vous laisse commenter ce classicisme de Turin.
Classicisme pour Nietzsche qui... alors, Nietzsche n'a jamais été romantique. Il s'est laissé aller à... il le regrettera, d'ailleurs, à moitié par faiblesse, moitié par amitié, effectivement, avoir cette amitié avec Wagner, pour qui il a eu de l'admiration au début de sa vie, parce qu'il voyait en lui une espèce d'esprit libre. Il a assez rapidement déchanté, en fait, et la rupture intervient très, très tôt. Mais ce n'est pas un élément véritablement essentiel. Nietzsche a repensé l'opposition romantique classique, et toujours en dévalorisant le romantique comme étant une forme de non-maîtrise, quelque chose de maladif, etc. Classique, ça signifie, pour lui, fondamentalement, ça n'est pas forcément en phase, ou pas uniquement en phase, avec ce qu'on appelle dans l'histoire des arts, dans l'histoire des lettres, la période classique, l'époque classique, le style classique. Classique, ça se caractérise toujours par une situation de maîtrise. Et c'est ça qu'il trouve à Turin, et qu'il enchante véritablement. Alors, il avait cru vivre ce genre d'expérience, avoir enfin trouvé le lieu qui lui convenait, dans toutes les villes sur lesquelles vous avez fait des émissions précédemment, c'est-à-dire le sud de l'Italie, puis il y a eu Gênes, il y a eu Venise, etc. Maintenant, c'est au tour de Turin, après qu'il ait été déçu par toutes les autres. Mais en effet, il insiste énormément sur ce lieu classique, c'est-à-dire... il y trouve une sorte de maîtrise aristocratique. Ça reste une ville qui respire la noblesse. Il est d'ailleurs très étonné parce qu'il s'attendait à trouver une espèce de capitale industrielle, moderne. Et il y va un peu mi-figue, mi-raisin, si j'ose dire, au début. Et finalement, c'est un enchantement, véritablement, que la découverte de Turin, pour mille raisons, mais notamment parce qu'il se sent parfaitement à l'aise dans cet environnement où tout lui semble parfaitement maîtrisé, où la nature environnante, que ce soit le Pô, que ce soit les montagnes qui sont pas très loin, tout cela lui semble composer un paysage admirablement maîtrisé. Il parle très fréquemment d'un paysage à la Claude Lorrain, nous dit, chose qui implique une sorte de perfection, ce qu'on voit sur les toiles de Claude Lorrain, cette lumière éblouissante, apaisante, magnifique. Il a l'impression de vivre de voir un Claude Lorrain se réaliser finalement. Et par ailleurs, il y a une phase d'apaisement ou de rémission de maladie quand ce qu'il arrive à Turin, qui va accentuer ce sentiment de libération, ce sentiment d'avoir enfin trouvé la ville qui lui convient parfaitement.
Alors maintenant, je voudrais qu'on aborde l'effondrement. Beaucoup de choses ont été dites sur ce moment de janvier 1889, où il va peut-être connaître une crise dans la rue. On va en parler. Mais je voudrais d'emblée poser la question des représentations de tout cela par les philosophes, par la littérature, etc. J'ai parfois un peu le sentiment qu'on fait avec Nietzsche ce qu'on fait avec Van Gogh en peinture, c'est-à-dire le peintre fou et le philosophe fou. Il y a un fantasme très fort. On adore cette idée que sa folie était philosophique. Derrière, il y a aussi la question de la figure du prophète, c'est-à-dire il est un peu perché, et c'est plus qu'un peu en vérité, c'est terrible, il y a une maladie terrible. Et il y a cette idée que ça en fait une figure prophétique. Or, peut-être que Nietzsche a explicitement déjoué cette idée en réfutant l'idée de manière explicite qu'il était un prophète. J'ouvre cette question en vous faisant d'abord entendre une fiction qui est une adaptation au cinéma du très beau roman. Moi, j'aime beaucoup le roman. Le film, je le crois un peu différent parce que justement, dans le roman, il n'y a pas de représentation trop pleine de fantasmes. C'est le roman « Et Nietzsche a pleuré » de Irvine Yalom. Dans le film, ça donne quelque chose, écoutez, où la figure du prophète va être évoquée par Nietzsche lui-même.
Parlez-moi de votre maladie.
Il vaut peut-être mieux que vous lisiez les rapports des médecins que j'ai consultés précédemment.
Je suis sûr que ce sont d'excellents médecins, merci, mais je fais toujours mon propre diagnostic avant de me pencher sur ceux de mes confrères, tout comme je préfère aller voir une pièce de théâtre avant de lire les critiques. Dites-moi, professeur, est-ce que ces crises de migraines sont accompagnées d'une certaine mélancolie ?
J'ai mes moments de tristesse, mais qui n'en a pas ? Ils ne m'atteignent pas. Ils ne sont pas ma maladie, mais ma nature.
Une vie dominée par des périodes sombres peut engendrer du désespoir.
Du désespoir, non. Peut-être autrefois, plus maintenant, non. Je vais accoucher, c'est tout. D'idées. Mes migraines sont les douleurs de l'accouchement de mon nouveau livre.
Ah, quel livre ?
Zarathoustra. Un jeune prophète débordant de sagesse, de courage et de sincérité décide d'éclairer le monde.
Je vous enseigne l'Ubermensch. L'homme est quelque chose qui doit être dépassé. Qu'avez-vous fait pour le dépasser ? Qu'est-ce que le singe pour l'homme ?
Mais personne ne comprenant ces paroles, le prophète se rend compte qu'il est venu trop tôt et retourne à sa solitude. Et, tout comme Zarathoustra, je viens trop tôt.
Cher ami, je viens de me regarder dans le miroir, je n'ai jamais eu cette apparence. Je suis d'une bonne humeur exemplaire, bien nourri et parais 10 ans plus jeune que mon âge ne l'autorise. De plus, depuis que j'ai élu Turin comme ma ville d'adoption, j'ai beaucoup changé dans les honneurs que je me réserve. J'ai par exemple un excellent tailleur, et j'attache beaucoup d'importance à être considéré partout comme un étranger distingué. Ce que je réussis à faire, à ma grande surprise. Le temps est si splendide qu'il n'est pas difficile de faire quelque chose de bien. Le jour de mon anniversaire, 15 octobre, j'ai relancé quelque chose qui semble bien parti et qui a déjà bien avancé. Cela s'intitule « Ecce Homo » ou « Comment on devient ce que l'on est ». Cela traite, avec une grande audace, de moi et de mes écrits. Je n'ai pas seulement voulu me présenter devant l'acte solitaire et effrayant de la transvaluation, je voudrais faire un essai pour voir ce que je peux risquer avec les concepts allemands de liberté de la presse. Je crains que le premier livre de cette révolution soit immédiatement confisqué, légalement et à juste titre. Avec cet Ecce Homo, je voudrais rendre la question si sérieuse et susciter une curiosité telle que les notions courantes et fondamentalement raisonnables de ce qui est permis fassent ici exception. D'ailleurs, je parle de moi-même avec toute la ruse psychologique et la gaieté possible. Je ne veux absolument pas me présenter aux gens comme un prophète, une bête ou un monstre de moralité. Dans ce sens également, ce livre pourrait faire du bien. Il empêcherait peut-être que l'on me confonde avec mon contraire.
Vous entendiez, avec la voix de Nicolas Berger, notre réalisateur, une lettre réelle hein, de Nietzsche, c'est pas une fiction, à son ami Heinrich Köslitz, le 30 octobre 1888, depuis Turin. Il est assez raisonnable, il réfute absolument l'idée qu'il se prendrait pour un prophète. Il pense même qu'on a tendance à le confondre avec ce genre de figure qui est son contraire, dit-il. Or, on a entendu dans la fiction, et Nietzsche a pleuré juste avant, contrairement d'ailleurs au roman qui ne va pas du tout sur ce terrain-là, une espèce de on entend un personnage délirant, mais évoquant le fait qu'il est un prophète, qu'il a écrit trop tôt, qu'il va accoucher de grandes pensées prophétiques, etc. Céline Denat, Nietzsche s'est-il pris pour un prophète ou faut-il abandonner tout cela en comprenant que c'est lié à cette folie que l'on se représente sur un mode, pour le coup, un peu romantique ?
Alors, ce que dit explicitement la lettre qui vient d'être lue, là, à la toute fin du passage, c'est que précisément, Nietzsche ne se conçoit pas et qu'il ne veut pas, surtout pas, être pris pour un prophète. Et on évoquait tout à l'heure l'image, la figure du philosophe législateur. Ce que Nietzsche souhaite pour l'avenir, effectivement, c'est que de nouveaux philosophes, des philosophes à venir, travaillent à la transformation, au renouvellement des valeurs et par là même de la culture. Mais il faut bien sûr distinguer entre l'idée de travailler à un avenir possible ou bien prétendre prophétiser. Littéralement, un avenir qui serait en quelque sorte prédéterminé. Nietzsche ne prétend pas du tout prévoir l'avenir ou annoncer des choses qui vont se produire en vertu d'une sorte de connaissance ou d'omniscience absolue. Tout au contraire, il ne cesse de dire « nous allons travailler à une tâche à venir, cette tâche elle est risquée, on ne peut pas en prévoir entièrement les conséquences ». Donc il se présente constamment comme tout autre chose qu'un prophète. Et par ailleurs, on pourrait ajouter que s'il y a bien une chose que Nietzsche critique à l'égard des philosophes, c'est la tendance à se prendre excessivement au sérieux, à s'accorder peut-être une valeur excessive à eux-mêmes, de sorte que se considérer soi-même comme un prophète serait peut-être un peu, de son point de vue, déplacé.
Alors, entendu, j'ai suscité, vous l'avez entendu, ce genre de réponse, mais maintenant je vais donner la parole à l'adversaire, si je puis dire. Il y a quand même dans Ecce Homo en particulier des textes qui montrent qui se prend pour quelque chose qui est presque au-delà de l'humain. Je cite « Je connais mon sort, un jour s'attachera à mon nom le souvenir de quelque chose de formidable, une crise comme il n'y en eut jamais sur Terre, la plus profonde collision des consciences, un arrêt rendu contre tout ce qu'on avait jusqu'à maintenant cru, exigé, sanctifié. Je ne suis pas un être humain, je suis de la dynamite. » Et il dira un peu plus loin « Je suis l'homme de la fatalité, car lorsque la vérité engagera le combat avec le mensonge millénaire, nous aurons des ébranlements, un spasme de séisme, un déplacement des montagnes et des vallées comme on n'en a jamais imaginé. » Patrick Voetling, reconnaissait peut-être quand même que Nietzsche a parfois des mots où il semble se prendre pour un prophète.
Prophète, non. Le ton est très exalté, c'est comme pour un certain nombre de textes de cette époque. Prophète, non. D'ailleurs, il vous dit dans le texte que vous avez cité, peut-être sujet un bouffon, effectivement, il est le premier à ne pas se prendre totalement au sérieux, même s'il est tout à fait sérieux, en pensant qu'il essaye, en tout cas, il n'est pas sûr que ça va marcher, mais enfin, qu'il essaye effectivement de lancer un mouvement de renversement des valeurs, parce que sans ça, l'humanité européenne va au suicide. Donc, c'est vital d'arriver à faire ça, et que si ce mouvement s'avérait victorieux, ce sera effectivement, ce ne sera pas le premier. Hein. L'histoire humaine n'est faite que de renversement de valeurs, mais simplement, les valeurs, elles règnent pendant des siècles ou des millénaires, donc ce sera le premier grand depuis Platon. Effectivement,
ce sera un déplacement des montagnes, dit-il.
Pardon,
ce sera un déplacement des montagnes.
Un déplacement des montagnes sera quelque chose de considérable, effectivement, parce que encore une fois, les valeurs, c'est pas des idées. Il faut bien garder ça en tête. Oui. Ce sont des manières d'organiser la vie. C'est-à-dire que la manière, notre rapport à la réalité sera organisé en fonction de priorités, de jugements, d'évaluations totalement différentes de ce que nous vivons, nous, aujourd'hui. Pour nous, c'est justement la raison, la vérité, ces choses-là, les valeurs fondamentales. Le bien, on croit qu'il y a un bien en soi, on l'oppose au mal, on méprise le corps, on méprise tout ce qui est de l'ordre du sensible. Bon, si toutes ces choses sont renversées, évidemment, la vie changera totalement. Voilà pourquoi on a cette... pour les raisons intellectuelles, pourquoi on a cette exaltation. Nietzsche, effectivement,
Exaltation, ça, vous pensez que ça a un lien aussi avec son état mentale, médicale. Ça,
le médecin pourrait le dire, à vrai dire. Certains ont été dans cette direction. Je suis assez perplexe sur cette affaire parce que Nietzsche a toujours été quelqu'un de passionné, d'extrêmement enthousiaste. Alors là, on peut dire oui, mais là, ça passe les bornes. Vraiment, ça devient absolument d'un lyrisme excessif. Peut-être, effectivement, on peut ne pas aimer ce style. Hein, ça, c'est certain. On n'est pas obligé d'apprécier ça, même si on analyse précisément le sens des affirmations de Nietzsche. Donc, signe de folie, non, moi, pour ma part, à titre personnel, je n'y crois pas, mais enfin...
Mais par ailleurs, qu'il a eu été très malade et qu'il...
Il est très malade. Du reste, c'est pas la crise de janvier 89 ne va pas arriver par hasard. Il y a quelque chose qui couve depuis très longtemps. Il n'en est pas conscient. Ce qui est plus tragique ou peut-être mieux, finalement, pour lui, je sais pas, c'est qu'il a pensé à Turin que son état connaissait une amélioration. Il sortait de ces crises qui le faisaient souffrir depuis
il était très créatif, il avait moins mal à la tête.
Il n'avait plus de maux de tête, il dort très bien, il se vante de manger comme un ogre, il digère tout admirablement, il est ravi, fait des grandes promenades, tout se passe bien, etc. Mais il n'a absolument pas conscience du fait que la maladie, probablement, est en train de faire son chemin et d'aller vers une phase...
Ah, donc, moi, je pensais qu'il sentait, dans sa frénésie, que quelque chose était en train d'être vraiment fragile et qu'il devait se dépêcher.
À Turin, il semble, avant peut-être, à Turin, en tout cas, à l'automne, son deuxième séjour, toutes les lettres parlent, mais avec le même genre d'enthousiasme, d'un sentiment d'amélioration de son état. Donc, difficile de savoir ce qu'il pensait au fond de lui-même. Mais
Je vais juste revenir donc sur la, peut-être, ce que vous appelleriez la romantisation de sa grande crise de janvier. J'ai pris un exemple, semble-t-il, assez connu, qui est la manière dont un personnage de l'insoutenable légèreté de l'être de Milan Kundera évoque cette crise. J'ai une image m'apparaît. Nietzsche sortant d'un hôtel de Turin, il aperçoit devant lui un cheval et un cocher qui le frappe à coups de fouet. Nietzsche s'approche du cheval, il lui prend l'encolure entre les bras sous les yeux du cocher et il éclate en sanglots. Nietzsche était venu demander au cheval pardon pour Descartes. Sa folie, donc son divorce avec l'humanité, commence à l'instant où il pleure sur le cheval, et c'est ce Nietzsche que j'aime, dit le personnage, de même que j'aime Teresa, autre personnage du roman, qui caresse sur ses genoux la tête d'un chien mortellement malade. Je vous écoute, Céline Denat.
Anecdote fameuse qu'on retrouve partout, mais dont le biographe de Nietzsche, Jantz, rappelle qu'elle n'est fondée sur aucune source.
Aucun
document. Et que il semble qu'on en retrouve l'origine en fait dans une gazette turinoise plusieurs années après la mort de Nietzsche, c'est-à-dire quelqu'un invente ce récit sans se fonder sur aucun témoignage, quel qu'il soit, et puis ce récit se répand un petit peu partout jusqu'à ce qu'il finisse par passer pour vérité. Mais du point de vue historique, il n'est fondé sur rien. Il a sans doute un récit qui a un certain charme morbide ou quelque chose comme ça, mais
il y a une cohérence quand même. C'est l'histoire de l'animal. L'animal dont nous avons parlé dans cette émission, plutôt dans la première partie. Il compare tous les êtres humains à des animaux. En même temps, dans le refus même d'acter leur animalité, il pense que les humains ont un manque dans ce domaine et c'est précisément leur maladie. Et lui, au contraire, va embrasser un cheval.
Mais en revanche, la question de la pitié qui joue ici aussi dans ce récit, c'est pas quelque chose qui est extrêmement, disons, nietzschéen. En fait, Nietzsche est un grand critique du sentiment de pitié. Donc moi, il me semble que ce récit manifestement fictif. En fait, bien sûr qu'on peut toujours trouver des rapprochements et se dire « Ah mais quand même, ça correspond à des choses chez Nietzsche », mais du point de vue historique du point de vue historique, ça n'est pas possible.
Donc, je crois que vous dites la même chose, Patrick Wotling, enfin, vous allez le dire avec vos mots. Cela dit, concernant la pitié, j'ai lu de vous des choses expliquant à quel point le pathos, la capacité à se laisser traverser par l'émotion, c'est justement ça, être vivant pour Nietzsche. Nietzsche n'est pas que dans l'activité, il y a aussi de la passivité dans le oui à la vie chez Nietzsche. Donc les aspects émotionnels de l'existence, je crois que c'est quand même important, non? Je me trompe?
Ah oui, l'affect. Et d'ailleurs, c'est une des sources, en fait, hein, de la vie elle-même. Je parlais tout à l'heure de ces processus infraconscients auxquels Nietzsche revient sans arrêt, qu'il appelle tantôt pulsion, tantôt instinct, tantôt affect. Bon, il y a une dimension, en tout cas, affective, infraconsciente, qui est très puissante, c'est sûr. ça ne remet pas en cause la critique de la pitié. Ceci dit, tout affect n'est pas bon en soi. Et surtout, si l'affectivité est présente comme racine, en quelque sorte, elle doit toujours être maîtrisée pour ne se laisser... Il a une très belle formule, une chose qu'il applique très méchamment à ses compatriotes, aux Allemands. Il parle d'ivrognerie du sentiment. Les Allemands sont des ivrognes du sentiment. Ils se laissent aller, sont incapables de contrôler leur sentimentalité. Donc ça, c'est une chose qui... C'est le point, si vous voulez, de bascule où quelque chose qui, au départ, est bénéfique, se retourne en un vice, en quelque sorte. Donc, l'affectivité, effectivement, c'est une des sources, des composante fondamentale de l'existence, contre ce que la philosophie plutôt rationaliste a toujours cherché à dire, mais il ne faut pas pour autant ouvrir les vannes toutes grandes et se laisser aller à toute forme de sensibilité, et surtout pas à la pitié.
Mais là, en l'occurrence, il demanderait dans cette anecdote sans doute fantaisiste, dites-vous, au cheval, de pardonner à Descartes, celui qui a pensé non pas la séparation, l'union de l'âme et du corps dans le corps, mais cette idée que nous étions un peu différents des animaux. C'est ça, Descartes aussi, que nous sommes des animaux vraiment très spéciaux avec notre rationalité. Mais et là, il demande pardon au cheval.
Alors, deux choses peut-être très vite. Dans le paragraphe 14 de l'Antéchrist, Nietzsche revient justement sur la question de Descartes et il vous dit, voilà, Descartes, qui est un des, il le critique comme les autres, mais est un des seuls philosophes vraiment rigoureux, sérieux à ses yeux. Nous en venons aujourd'hui, et la science va dans ce sens-là également, à la thèse de Descartes. Il n'y a aucune différence entre nous et les animaux. Donc Nietzsche s'aligne d'une certaine façon sur cette position. Pour ce qui est du cheval, une chose qui a été soulignée par les biographes sérieux, Jans le premier en particulier, c'est que dans une de ses lettres de 88, Nietzsche évoque un petit récit qu'il a trouvé chez Diderot, où il est question d'un récit comme ça qui met en scène un cheval, d'un paysan, si je me souviens bien, c'est un paysan pauvre, etc., qui en plein hiver, dans une situation effroyable, est avec un cheval, une pauvre bête harassée, etc., et cet homme présenté comme méchant, excédé, urine sur son cheval. Et donc, c'est exactement le genre de situation où on pourrait se dire qu'on va éprouver de la pitié. Et Nietzsche qualifie ça de sensibilité larmoyante. Donc, c'est pour dire que l'épisode prétendu de Turin, non seulement, effectivement, il n'est axé sur absolument rien, aucun document historiquement, mais même s'il avait eu lieu, il serait difficile de mettre ça en rapport avec la réflexion nietzschéenne. On sait quand c'est apparu, c'est en 1930 dans un ouvrage qu'il écrit 30 ans après la mort de Nietzsche tout de même. Il n'y a aucune trace antérieure de cet épisode du cheval qui apparaît comme ça d'un seul coup. Mais, vous le disiez tout à l'heure, et c'est normal, c'est l'esprit humain aussi, l'homme aime les fictions, on aime bien broder, on aime bien tisser, on aime bien créer des légendes, on aime bien reconstruire des personnages, donc ça c'est cette histoire s'est accrochée...
Et juste en une petite minute, ces lettres sur la folie, elles existent, de quoi s'agit-il? Est-ce que c'est intéressant pour vous?
Ce sont des intéressants. Disons que ce sont des lettres que Nietzsche écrit. On est donc en début janvier. Il écrit entre le 3 et le 6 janvier des lettres à ses amis, mais également à certains des grands de ce monde, les responsables politiques italiens ou allemands. Il écrit par exemple à Bismarck, à l'empereur d'Allemagne qui va les faire arrêter, les faire fusiller, ce genre de choses. Bon, ce ne sont pas des textes qui sont exploitables philosophiquement. Manifestement, il s'est passé quelque chose, la crise a eu lieu avant. On n'est pas absolument certain, mais on estime que la crise probablement a dû se produire le 4 janvier, probablement. Donc 3, 4, 5, 6 sont les moments où Nietzsche envoie ces lettres très très bizarres, effectivement, exaltées, assez irrationnelles.
Vous voyez ça comme un symptôme, mais
on est déjà manifestement, c'est de la vie,
mais pas comme de la littérature,
la vie des médecins. Par exemple, son ami Overbeck, celui qui va le chercher à Turin ensuite, reçoit une lettre de ce genre, et Burckhardt à Bâle reçoit également une lettre. Overbeck va consulter un psychiatre, il lui montre les lettres. Le psychiatre, qui s'appelle Dr Villos, c'est celui qui va soigner Nietzsche d'ailleurs par la suite, n'a aucun doute. Quand il voit les lettres, il dit non, votre ami traverse une crise grave, il faut aller le chercher immédiatement. Il n'y a absolument aucun doute qu'on est dans la pathologie avec ce type de choses.
Très rapidement, juste Céline Denat, vraiment une mini-minute. Les lettres sur la folie, ça vous intéresse? Ou bien, là aussi, il ne faut pas romanticiser tout ça?
Alors, ça ne m'intéresse pas philosophiquement. Je trouve surtout que c'est un témoignage dramatique, effectivement, de l'effondrement d'une personnalité philosophique. Et le fait que certains de ses amis s'inquiètent immédiatement en découvrant ces lettres, indique effectivement que pour eux, ça n'est plus l'ami qu'ils connaissent, ça n'est plus Nietzsche, la personne Nietzsche n'est en un sens plus là, ce qui est terrible.
Alors, je vous remercie vraiment beaucoup tous les deux, Céline Denat, Patrick Wodling, c'était extrêmement précis.
Merci
cette
beaucoup
analyse de la dernière année, non pas de vie, car Nietzsche a survécu, encore 10 ans à cette crise majeure, mais la dernière année de travail de Nietzsche à Turin, dont nous avons parlé aussi, cette ville. Je vous propose maintenant un hommage à Jürgen Habermas, nous en faisons un à la fin de chaque émission cette semaine. Il a disparu le 14 mars dernier. Jürgen Habermas, figure internationale aujourd'hui. Écoutez, une philosophe qui connaît bien son œuvre, Clotilde Nouet. Bonjour Clotilde Nouet.
Bonjour Géraldine Mann.
Vous êtes professeure assistante à l'université Mohamed VI à Rabat, philosophe. Vous connaissez très bien l'œuvre de Jürgen Habermas. Pourquoi et en quoi cette œuvre philosophique est-elle importante?
Alors elle est importante parce qu'elle nous donne les moyens philosophiques de défendre un projet universaliste, celui de la démocratie et de l'état de droit. Et ce projet, il est au cœur de nombreux débats théoriques aujourd'hui, mais aussi de luttes pratiques. Alors, Habermas est l'auteur d'une œuvre qui est complexe, mais qui a le mérite d'être ambitieuse. Et elle articule différents champs au niveau de réflexion. Comment elle le fait? Eh bien, en combinant une réflexion sur la morale, sur la politique et sur le droit. Alors, du point de vue moral, l'idée d'Habermas, c'est que nous pouvons trouver des vérités morales, mais de façon toujours faillible. Autrement dit, on peut viser la vérité mais sans être dogmatique. Habermas insiste sur les pouvoirs de la raison, et cette raison, c'est précisément celle que nous mettons en œuvre lorsque nous échangeons dans des communications ou dans des discussions, des délibérations. Habermas, en fait, a défendu l'idée qu'il y a des vérités morales qu'on peut atteindre par la raison. Alors, il s'agit d'une raison qui est modeste et qui est faillible, mais qui néanmoins existe. Et elle existe parce qu'en fait, quelque chose nous unit, nous, êtres humains qui peuplons la planète. Nous avons un outil formidable de communication et de réflexion collective qui est le langage. Et pour Habermas, dès lors qu'on est capable de parler, on est capable de s'entendre. Alors, ce qu'il dit sur le plan du langage et qui est vrai sur le plan de la morale, va du coup expliquer pourquoi il fait de l'espace public politique la matrice même de notre capacité à construire des États démocratiques. Son idée, en fait, c'est que le droit est un instrument qui ne sert pas uniquement à stabiliser les sociétés, mais qui sert aussi à émanciper les individus et les collectifs, parce que c'est en exerçant ces droits et en participant activement à l'espace de la politique qu'on peut transformer ces conditions de vie. À une condition toutefois, c'est que ces droits soient constitutionnalisés. Et là, on atteint l'un des fils rouges de la réflexion d'Habermas sur l'Europe et puis plus tard sur le droit cosmopolitique, à savoir que finalement, eh bien, l'Europe a une valeur d'exemple dans ce projet qui renoue avec l'idéal kantien. Vouloir un droit cosmopolitique, c'est vouloir qu'à l'échelle mondiale, il existe des institutions transnationales qui garantissent les droits humains. Et c'est donc cela, il me semble, qui fait de la pensée d'Habermas aujourd'hui une ressource précieuse. Elle n'a pas dit le dernier mot sur ces questions et elle mérite d'être étudiée de façon critique. Mais elle nous permet de penser la théorie en accord avec des enjeux pratiques.
Merci Clotilde Nouet. C'était un petit entretien enregistré il y a quelques jours. Nous vous avons donc proposé plusieurs réactions de philosophes à la mort de Habermas, évoquant l'importance de son œuvre. Vous pouvez les retrouver en podcast sur l'application Radio France et aussi via un lien sur notre site. Il y a aussi des réactions et des commentaires qui n'ont pas tous été diffusés dans l'émission, par exemple de très beaux propos de Jean-Marc Ferry. Alors, bon podcast. À présent, je vous propose d'écouter la chronique du jeudi. Elle est tenue, vous savez, par Laurence de Villers en ce moment. Ça s'appelle le fil philo. Aujourd'hui, Laurence de Villers s'intéresse à ceci. Avez-vous peur du quand dira-t-on? Eh bien, osez marcher à contre-courant avec Diogène, le punk de la philosophie.
Le fil philo. Et si vous décidiez d'être à contre-courant, d'arrêter de suivre les modes et de retrouver la voie de l'authenticité? Diogène de Sinope vous offre son manifeste de punk philosophie, ou plutôt de philosophie cynique, et c'est renversant. Diogène de Sinope, du nom de sa ville natale au bord de la mer Noire, est né en 405 avant Jésus-Christ, quelques années avant la mort de Socrate. Il est d'ailleurs un peu comme un Socrate qui ne connaîtrait plus ni limites ni interdits. À l'homme le plus puissant de l'époque, Alexandre le Grand, qui lui dit « Demande-moi ce que tu veux, je te le donnerai », Diogène est en effet capable de répondre « Ôte-toi de mon soleil ». Pieds nus et en guenilles, il se compare lui-même à un chien, ce qui a donné le terme de cynique dérivé du grec. Mais Diogène n'a rien de la personne blasée, revenue de tout, que l'on associe de nos jours au cynisme. C'est un rebelle, un sage, dont la sagesse est faite pour déranger. Aimer la vérité demande en effet de chercher à la connaître et à la dire sans ménager ni son interlocuteur, ni la société. C'est là une forme de courage qui fait marcher à contre-courant, à l'écart des institutions et des savoirs dominants. Diogène a ainsi pour habitude, dit-on, d'entrer au théâtre lorsque tout le monde en sort. Quand on lui en demande la raison, il répond que toute sa vie, c'est ce qu'il s'est efforcé de faire, de ne pas aller dans le sens du vent. Aucun de ses écrits n'est hélas parvenu jusqu'à nous. Nous ne le connaissons que grâce à un autre Diogène, Diogène Laërce. Le cynique provoque parce qu'il refuse aussi bien les consolations que les conventions. Il entend vivre sans crainte, mais sans vanité non plus. On dit que Diogène, dont le père était directeur de banque, aurait falsifié de la monnaie, non pas pour s'enrichir, mais pour dévaluer l'argent, renverser les valeurs établies et mettre la liberté au-dessus de tout. Il ne veut être d'aucun parti, d'aucun pays. Le cynique se déclare en effet citoyen du monde parce qu'il a la terre entière comme maison. Diogène refuse tout ce qui relève d'une forme de compromission, de perte de temps et de perte d'authenticité. C'est ainsi qu'il rejette l'apprentissage des savoirs à la fois, selon lui, inutile et trop convenu, comme il rejette d'ailleurs tout interdit alimentaire. Il ne prône pas pour autant la débauche et la paresse, mais bien au contraire, la simplicité et l'ascèse d'une vie libérée de toutes les entraves comme de tous les superflus. Diogène souhaite que vous vous interrogiez sur votre façon de vivre, sur le fait que vous acceptez trop souvent, trop facilement, de n'être qu'un suiveur, voire un hypocrite, qui ménagez les autres afin qu'ils servent vos intérêts. Vous vous conformez, vous répétez ce que tout le monde dit, vous êtes de la vie générale. Et ce faisant, vous vous perdez vous-même. C'est pourquoi Diogène marche en plein jour avec une lanterne allumée en disant « Je cherche un être humain ». Vous perdez votre humanité en adoptant les idées, les mots en vogue. Marchez à contre-courant. Adoptez la punk philosophie de Diogène.
Merci Laurence de Villers. Nos émissions peuvent être écoutées en podcast sur l'application Radio France ou sur franceculture.fr. Cette émission a été réalisée par Nicolas Berger et Olivier Arnay. Elle a été préparée en particulier par Luna Adjla et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Antoine Ravon, Anna Fulpin, Carla Michel, Nassim El Kabli, Corinne Amar. Vous êtes sur France Culture. Vive la curiosité.